Le propre de cette culture de masse qui s'est développée à partir de la radio, de la presse, du cinéma, de la télévision, c'est qu'elle est proposée sur un marché. Elle est faite pour être consommée.
C'est qu'on peut l'acheter ou ne pas l'acheter.
Oui, vous pouvez fermer votre bouton de télévision.
Début juin, à l'initiative de la compagnie Serpart, dans le cadre d'un financement européen, Jeunes en Action, une quarantaine d'artistes éducateurs venus de l'espace euro-méditerranéen se sont réunis pendant une semaine à Capestan dans l'Hérault pour échanger autour des pratiques artistiques. Le séminaire se partageait entre ateliers pour les jeunes de la région proposés par les artistes et puis trois tables rondes ouvertes au public. Nous avons suivi l'une d'entre elles qui portait sur l'éducation aux arts de la rue, l'occasion de nous poser quelques questions. Où sont les espaces d'éducation artistique? Comment évoluent les politiques éducatives? Et quelle est la spécificité des arts de la rue? Nous entendrons les trois participants à cette table ronde. Dominique Trichet, directeur de FEAR, l'école des arts de la rue de Marseille. Jean-Michel Djian, grand reporter au Monde, mais aussi directeur du Master Coopération Artistique Internationale à Paris 8. Et puis, aux côtés de ces responsables de formation, nous pourrons entendre une action concrète menée par Boris Bruguière, des CMEA, qui emmène des jeunes au Festival d'Avignon à la rencontre des artistes. Mais nous commençons avec Cécile Laurent, qui coordonnait ce séminaire à Capestan.
Bon, l'idée de départ, c'était de valoriser, nous, notre expérience, justement, par rapport au travail pédagogique qu'on a effectué pendant 2 ans. Et puis en préparant un petit peu une forme de valorisation, on s'est dit qu'on était un petit peu isolés dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des compagnies qui travaillaient dans le même champ que nous, parfois très voisinement, et qu'on ne connaissait pas. On s'est donc dit qu'il y avait peut-être peu de choses qui étaient faites au niveau institutionnel pour qu'on se rencontre et pour qu'on se rassemble, pour qu'on échange nos pratiques, qu'on discute. Et est venue l'idée, du coup, d'organiser ce séminaire de manière à rencontrer d'autres acteurs qui travaillent pas forcément que dans le champ éducatif, mais en tout cas dans le champ de la pratique sociale par l'art. Et du coup, on a monté un dossier avec le même programme qui nous avait financé la première année. Donc, c'est toujours programme Jeunesse en Action. Et on a organisé ce séminaire pour lequel on a invité des Lituaniens, des Autrichiens, des Palestiniens, des Algériens, des Anglais, etc. Alors, il y a une équipe du Maroc aussi qui est invitée, qui n'a pas pu venir faute de visa. Donc, ça, c'est aussi des réalités auxquelles on se confronte. Mais voilà, on est une quarantaine d'artistes toute la semaine. Et l'objectif global de ce séminaire, c'est de créer une base de données de tous les outils qu'on utilise dans nos pays respectifs, de nos expériences, d'aller chercher les publics, d'aller créer de la démocratie, d'aller créer des espaces de rencontre, d'aller faire du lien entre les habitants d'un quartier, d'aller peut-être susciter des vocations chez des jeunes qu'on rencontre. Voilà. Et donc de se poser un petit peu les problématiques en termes de cet art social, qu'on appelle comme ça encore aujourd'hui, là, au bout de 4 jours de séminaire, peut-être qu'on va passer à l'écrit à partir de demain. Et puis aussi de redéfinir un petit peu la notion des arts de la rue à travers nos différents pays. Les réalités ne sont pas les mêmes en Algérie, en Lituanie, en Italie, par exemple.
Dominique Trichet est le directeur de l'école des arts de la rue de Marseille. Pour lui, les arts de la rue se confrontent à tous les publics.
Les arts de la rue sont, par essence, ou par leur existence plutôt, forcément en lien avec une population, ou alors il n'existe pas. Et une population qui, également par son existence, est une population très diversifiée, aussi bien sur les âges que sur les classes sociales, et que précisément notre plaisir, c'est de jouer et d'offrir du rêve et des histoires à l'ensemble d'une population. C'est en cela qu'on peut dire qu'on est un art social. Savoir si on est un art engagé, je crois qu'il n'existe pas d'art qui ne soit pas engagé, en tout cas, qui ne soit pas un nouveau regard sur notre société et sur l'histoire de l'art dans notre société. Ou alors c'est qu'une œuvre n'existe pas vraiment. Mais une œuvre, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa qualité, si elle est vraiment une œuvre, alors c'est forcément un regard un peu neuf, un peu nouveau d'un individu ou d'un groupe d'individus sur son environnement, sur la vie, sur le lieu, sur le site.
Toutes les troupes présentes à ce premier festival sont de très bon niveau. De plus, sur les 8 spectacles proposés, 7 sont gratuits et présentés à plusieurs reprises dans des lieux disséminés dans la ville. ce qui permet de découvrir Aurillac sous un jour différent. Et puis la rue, ça ne fait jamais relâche.
Autre responsable de formation présent à Capestan pour ce séminaire sur les arts de la rue, Jean-Michel Djian, journaliste au Monde, écrivain, mais surtout directeur du master coopération artistique internationale à Paris 8. Nous avons pris avec lui en toute hâte la voiture qui l'emmenait prendre son train pour la capitale. Nous lui avons posé quelques questions sur les politiques publiques culturelles et puis avant tout sur la formation qu'il dirige. Qu'apprend-on dans ce master ?
J'apprends déjà à faire en sorte qu'il puisse s'affranchir de l'école. Ce qui paraît paradoxal, mais dans le milieu artistique et culturel, le conformisme est une règle assez générale. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse désapprendre l'école pendant au moins un an pour se réapproprier ce qu'ils ont en eux, souvent de très, très intéressant, des idées nouvelles, des innovations, des projets qui sortent de l'ordinaire et qui ont évidemment attrait au domaine qui les concerne, les arts et la culture.
Alors vous étiez présent ici à un séminaire, voilà, avec une partie pratique mais une partie aussi table ronde qui concerne art de rue, art social. Et en vous écoutant, on a l'impression que finalement les politiques ne jouent plus leur rôle.
Les politiques sont démobilisées par rapport à l'art et à la culture, comme si on avait déjà tout fait. Là on fête les 30 ans de la fête de la musique. Et on sent bien que la fête de la musique, elle, continue à vivre très bien, mais que les politiques sont incapables de ressortir des idées neuves pour justement relayer des histoires qui datent de 30 ans d'âge, qui datent de 30 ans. Donc il y a, de la part du politique, peut-être une fatigue, un essoufflement ou une paresse intellectuelle. Et c'est de cela qu'il faut parler aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas gouverner un pays, une nation et encore moins le monde sans avoir une certaine idée de la place de l'art dans la société. Que ce soit en architecture, que ce soit en musique, que ce soit dans les arts plastiques ou le théâtre, il est impossible de fédérer des peuples, de les animer sans qu'il existe au-delà du minimum vital pour vivre une certaine idée de la culture.
Lorsqu'on pense théâtre municipal, il est parfois difficile d'y amener les gens, d'y amener toutes les couches de population, alors que le principe du théâtre de rue, c'est justement que ce théâtre va au-devant des gens. Ce matin, par exemple, nous assistions à un spectacle, encore là, il y en a un, eh bien, c'est tout le monde, c'est la ménagère qui fait son marché, c'est le préposé qui était là ce matin, c'est tout le monde qui est là, qui peut participer au théâtre, même ceux qui d'habitude ne viennent pas justement, qui ne franchissent pas les portes du théâtre municipal. Et ça, c'est quelque chose, et c'est très important au niveau de nos principes de l'action culturelle.
Alors pourtant, la culture, elle est partout. Les théâtres sont subventionnés, enfin, y a quand même de nombreux dispositifs. Alors qu'est-ce qui manque finalement ?
Il manque pas d'argent, mais il manque simplement l'idée de désinstitutionnaliser la culture. Depuis que les pouvoirs publics s'intéressent à la culture, c'est-à-dire depuis, alors, disons un siècle véritablement, on a élargi le périmètre de responsabilité de l'État et des collectivités publiques dans le domaine de la culture. Et donc il y a eu de fait une institutionnalisation, c'est-à-dire la création de nouvelles institutions, avec donc l'obligation de les gérer. Et tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais en même temps, du coup, on occupe l'espace. Le carré d'art à Nîmes, par exemple, qui est un très beau monument, empêchera probablement, par sa seule existence, de créer d'autres lieux. Donc il y a un vieillissement des pratiques, un vieillissement des institutions, au nom d'une protection, ce qui est normal, du droit social des gens qui y travaillent. Mais en même temps, peut-être il faut réinventer un statut des lieux et des institutions, parce que on ne peut pas, figer la culture. Le monde génère des nouvelles idées. Dans un monde où se précipite la vitesse, où se précipitent les informations, il faut pouvoir penser autrement l'existence de l'art et de la culture. Et pour ça, il faut que les institutions s'adaptent. Et elles ne s'adaptent pas.
Jean-Michel Djian, à vous entendre, finalement, on a l'impression que, et c'est ce qu'on peut entendre aussi parmi certains artistes qui se retrouvent dans des petites compagnies, c'est que l'argent
va toujours aux grosses compagnies. Enfin, il y a quand même un déséquilibre flagrant. Ouais.
Exactement. La plupart des mouvements structurés, professionnalisés, sont les interlocuteurs privilégiés de l'État. Et donc ça se fait au détriment des amateurs. Et c'est un peu dommage. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est démagogue. Non. Parce qu'en même temps, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on est bon. Donc la question de l'exigence est posée. Et cette exigence-là, elle se trouve aussi bien en bas qu'en haut. Sauf que les pouvoirs publics sont tirés vers le haut, pas par vers le bas. Et de cela souffrent les compagnies qui sont souvent dans l'anonymat, qui parfois peuvent être excellentes, parfois très mauvaises, mais qui n'ont très peu d'occasion de montrer leur talent. Quand elles en ont, encore une fois, elles n'ont pas toutes du talent, mais quand elles en ont, de fait, on ne peut pas le repérer. Et c'est là le drame de la société culturelle moderne, c'est que les collectivités publiques et l'État n'ont pas les moyens de régénérer la politique culturelle. Aujourd'hui, ça, c'est dommage.
Vous avez eu quelques mots, en tout cas, sur la distinction qu'on peut faire entre, auparavant, le rapport du bouffon et du roi, quand il y avait un roi, et puis maintenant, qui a été complètement renversé. C'est-à-dire que le roi, ce serait l'artiste, et le bouffon, ce serait le politique. Alors, dans quel sens, finalement, le politique devient le bouffon ?
Le politique est le bouffon quand c'est lui qui contrôle pas le destin de sa nation. C'est-à-dire, quand François Ier avait son bouffon consistait à lui dire « Tu te trompes ou tu dis des bêtises ». Il était le seul à pouvoir le dire. Hein. Et ce bouffon-là, souvent, avait une crédibilité parce que, précisément, il était dans un autre monde, celui un monde un peu irrationnel, et on l'acceptait. Mais les politiques étaient hyper légitimes à l'époque. Un roi comme un président de la République, jusqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, était un homme extrêmement légitime. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Un président de la République, même s'il est élu démocratiquement, est souvent la risée des citoyens. Parce que tout est mélangé, il n'y a pas de vision du monde, il y a de l'incohérence. Bon, alors c'est valable en Italie comme en France, donc ce n'est pas seulement en France. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que les artistes sont plus responsables encore que les politiques. Et à tel point que quand il s'agit de faire une campagne électorale, les premiers qu'on va solliciter pour cautionner une politique, c'est les artistes. Hein, depuis 30 ans, à chaque élection, vous pouvez être certain que les stars, les artistes, les intellectuels sont les premiers sollicités pour cautionner une politique. Donc c'est le monde à l'envers.
Et c'est même curieux hein, parfois, parce qu'on s'aperçoit que les artistes, qui sont bien souvent de gauche quand même, et quand on regarde donc ces artistes qui soutiennent la gauche et les artistes qui soutiennent la droite, souvent les artistes qui soutiennent la droite sont la risée ou sont mis de côté, voilà.
Hein, c'est oui, c'est vrai. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy a été élu, quand il y avait eu Lynn Renault et je crois Guy Béard, bref, sur la tribune, c'est pas que ça faisait ricaner, c'est qu'on s'est dit, mais enfin bon, la jeunesse artistique, elle est ailleurs, pourquoi elle n'est pas là ? Donc voilà, donc sans tomber à côté dans la démagogie, encore une fois, les artistes, on les convoque pour les politiques parce que ça sert à leur image. Donc il y a un souci quand même du traitement de l'art et des artistes dans la société moderne et dans une démocratie qui a du mal à fonctionner. Et que l'illégitimité parfois d'un élu, elle est due au fait que l'élu devrait avoir un regard sur le monde, une vision du monde. Et c'est l'artiste-là qui joue son rôle de l'aider ou pas. On n'en est pas là.
Donc si on parle concrètement, là, dans le cadre d'une démocratie locale, ça veut dire que les maires sont mal entourés, les conseillers généraux sont mal entourés, c'est fonctionnarisé, trop fonctionnarisé. On ne fait pas appel aux citoyens comme on pourrait faire appel à des comités de quartier. Il pourrait y avoir peut-être des comités qui choisiraient, mais voilà, il faut soutenir tel artiste parce qu'il apporte du bien.
Je crois surtout qu'il faut laisser les élus et les maires, ou les présidents d'ailleurs, gérer leur lubie. Pompidou a voulu faire le Centre Beaubourg. Tout le monde était contre, il l'a fait. Qui va contester le Centre Beaubourg aujourd'hui ? C'était une belle idée. François Mitterrand a lancé sa Bibliothèque nationale de France ou la pyramide du Louvre, tout le monde était contre. Sauf que maintenant, non seulement ça rapporte de l'argent grâce au tourisme, mais en plus tout le monde se dit aujourd'hui « mais quel visionnaire !» Donc on est dans des configurations où il faut justement, ça paraît paradoxal, que la puissance politique s'affranchisse aussi de la manière de décider de la trace qu'il laisse dans la société. Ce que je dis là, c'est pour un président de la République, mais vous savez très bien qu'à Montpellier, pour ne pas citer, ou à Grenoble ou ailleurs, il y a eu des maires qui ont eu des visions. Bon, ben, faut les laisser, c'est tout. Ça fait partie du jeu. C'est du politique.
Alors, ben, si on vient à ces journées qui sont institutionnalisées, effectivement, on approche des 30 ans de la fête de la musique. Alors après, il y a eu les journées du patrimoine, et après, on ouvre les musées le premier dimanche du mois, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut imaginer, hein, puisque vous avez parlé aussi d'être un peu idéaliste, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la culture sera beaucoup plus accessible et peut-être même gratuite ?
Ben, paradoxalement, elle l'est déjà beaucoup sur Internet. Le piratage est une réalité culturelle. Voilà, elle est en partie gratuite. Mais la seule vraie question que je me pose, et je fais partie de ceux qui portent une responsabilité à ma petite échelle, évidemment, mais c'est qu'on a longtemps cru qu'en injectant de l'argent public dans la culture, on allait démocratiser l'accès à l'art. Or, dans la pratique, c'est faux. Depuis qu'on a rendu le Louvre gratuit le dimanche, eh bien, c'est ceux qui sont les plus cultivés qui y vont. On n'a pas réussi, grâce à la gratuité, à démontrer que ceux qui n'allaient jamais au musée puissent y aller parce que c'est gratuit. Donc, le vrai souci aujourd'hui, c'est de se dire « Mais comment se fait-il qu'on a pendant 30 ans fonctionné sur une idéalisation de la démocratie culturelle, puisque la réalité prouve que la démocratie passe pas par la gratuité ?» Et ce que je reprochais tout à l'heure aux politiques, et ce que je reproche aux politiques, c'est d'aller franger en se disant « Bon, puisque c'est pas là le problème, cherchons l'autre piste. »
« Je vois beaucoup de titres piratés. » Vous avez même téléchargé du Judas Priest? Vous cherchez vraiment à avoir des ennuis? Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Ben, on croyait que c'était pas si grave que ça.
Que c'était pas grave? Vous croyez que voler de la musique à ceux qui l'ont créée, c'est pas grave? Enfilez vos vestes, je vais vous montrer quelque chose. Et je crois pas que vous allez aimer. Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui, là-bas, effondré sur son transat.
Mais pourquoi il pleure?
Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir.
Je crois qu'on arrive à votre gare.
Bon, ça a été... Ouais, c'était juste le temps qu'il fallait. Hein. On est à Béziers, là? Je connais pas. Ah oui, Béziers,
Voilà un trajet instructif. Jean-Michel Le Dian a pu prendre son train sans encombre. A noter que son dernier ouvrage, publié au Seuil, 21 juin, Le Sacre musical des Français, revient sur les circonstances sociales et politiques ayant permis la mise en place de la fête de la musique et ayant contribué à son succès. Terminons ce reportage sur le séminaire Art de rue, Art social avec une expérience, celle qu'a pu mener Boris Bruguière au sein des CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Nous allons parler d'une initiative qui permet à quelques jeunes de suivre le Festival d'Avignon.
Je suis chargé d'une action qui s'appelle Chapra Musac. C'est une action autour du chant, des pratiques musicales actuelles en lien avec l'éducation nationale.
Alors, on va rappeler très brièvement ce que c'est que le CMEA, parce que ce n'est pas forcément connu de tous.
Ouais. Alors, on dit les CMEA, déjà parce qu'en fait, c'est une association nationale avec une antenne dans chaque région en France. Et donc, c'est un mouvement d'éducation populaire, donc une association qui date des années 30 et qui a son actif de nombreuses années sur la formation des métiers liés à l'animation jeunesse, sur la formation professionnelle des moniteurs éducateurs, sur tout un tas d'interventions sur l'insertion sociale, les pratiques culturelles, voilà. Donc, maintenant dans des domaines très très vastes.
Éducation populaire, lien avec les enfants, on est en plein dedans, puisque là on est donc dans un séminaire
européen, art de rue, art social. Alors vous avez parlé lors d'une table ronde finalement d'actions très très concrètes que font les CMEA, donc lors des festivals. Racontez-nous ce qui se passe.
Les CMEA, historiquement, en fait, ont eu pour première, une des premières actions concrètes, effectivement, ça a été de travailler avec Jean Villard à l'époque de la création du Festival d'Avignon et à sa demande sur la mise en place d'une structure, de moyens en fait, d'accueil et d'hébergement pour un public, pour le public. Pour des publics qui n'étaient pas forcément prédestinés à venir assister au Festival d'Avignon. L'idée, c'était de faciliter les conditions d'hébergement, c'était de permettre à des personnes différentes et venant d'horizons sociaux différents de se rencontrer autour de l'événement du Festival d'Avignon et d'accéder à ce festival. Ça a été au tout départ une première maison d'accueil, comme on les appelle aujourd'hui. Et actuellement, donc, on est à une petite dizaine de lieux d'hébergement sur Avignon. Donc ce n'est pas de l'hôtellerie, hein. Ce n'est pas concurrentiel avec les hôtels d'Avignon. C'est plutôt des lieux de vie. On va pouvoir à la fois bénéficier de conditions d'hébergement en vie, en collectivité. Et surtout donc de cette expérience de vie en collectivité à travers des temps de repas, à travers des débats, des temps d'échange, à travers des moments de pratique artistique. Et puis ensuite, un vivre ensemble autour du spectacle. Donc comment on va au spectacle ensemble, qu'est-ce qu'on va découvrir, comment on prépare cette sortie, comment on traverse pour la première fois ou pas un spectacle à Avignon, dans le Hin, dans le Hof. Et ensuite, comment on se retrouve après ce spectacle pour partager son ressenti, échanger ses points de vue, confronter toutes ces divergences, ces différences.
C'est un vaste programme hein, quand même pour ce qui est d'Avignon, qui est un grand festival, sachant que le Hof, il y a plus de... Ils en sont arrivés à plus de 1000 spectacles hein, déjà pour le Hof. Le Hin, bon, c'est un peu plus restreint. Et en tout cas, voilà, c'est en plus, il faut s'y prendre à l'avance. Donc j'imagine que en plus, vous permettez à certaines personnes qui peuvent être empêchées de voir ces spectacles, de voir des spectacles.
Tout à fait. Donc là, c'est un partenariat qui est établi avec le Festival d'Avignon depuis de nombreuses années. Donc le festival réserve un certain nombre de places, effectivement. C'est à la fois eux dans leur mission et dans leur... dans leur souhait aussi de permettre cet accès. Donc nous, on essaie effectivement chaque année avec eux aussi d'améliorer. Donc il y a, on va dire, un certain nombre de places qui sont réservées. Dès qu'il y a des places à libérer, on les libère évidemment pour ne pas monopoliser des places inutilement. Et on essaie aussi parfois de faire donc un travail avec eux sur des rencontres avec les artistes. Il y a des espaces de débat qui sont prévus par le Festival d'Avignon pour permettre au public de rencontrer les artistes présents dans le Festival Hin.
Ce que les politiques n'oseraient pas, les saltimbanques le font. Accrocher partout où c'est possible les affiches de leur programme. Cette année, ils battent tous les records en tout. Festival Hin et Hof confondus, ce sont plus de 900 spectacles venus du monde entier qui sont proposés. Théâtre, mais aussi musique, danse et variété.
On peut peut-être se demander combien de personnes ça concerne, parce que vous avez parlé de 10 maisons, mais à ce moment-là, combien de personnes vont, notamment dans ce festival d'Avignon, à la découverte des artistes et des spectacles ?
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que l'année dernière, on était à quelque chose comme 3 000 collégiens et lycéens. Il y a une dizaine d'écoles et de collèges qui sont réquisitionnés pendant le festival. Comme je le disais, il y en a certains qui sont équipés en lit, en internat, et d'autres qui sont des lieux qu'on investit complètement de A à Z pour en faire des lieux accueillants et des lieux où il y a une possibilité de convivialité et de minimum de confort, quoi. Donc voilà, c'est plusieurs centaines, mais je suis pas le chiffre en tête, je suis pas un grand comptable.
Alors est-ce qu'il y a un public qu'on pourrait appeler cible ? Même si on n'est pas dans la publicité, est-ce qu'on peut dresser le profil un peu du public que vous portez avec vous ?
Alors il y a bien évidemment un public ciblé qui est en fait un public rattaché à l'éducation nationale, puisqu'en fait les CMEA dans leur région d'implantation font sur le courant de l'année un travail de proximité avec les établissements scolaires. L'idée c'est de se mettre en lien avec des écoles, des collèges, des lycées dans lesquels soit existent déjà des ateliers de pratique de théâtre, soit peut exister des actions à mettre en place pour ensuite donner le goût, l'envie, l'idée d'aller rebondir sur l'événement du festival. Donc c'est la volonté aussi de faire un travail en amont, une préparation en amont. L'idée c'est de dire, ben, on va pas comme ça du jour au lendemain dans un festival n'importe comment, on prépare ça. On prépare un futur regard de spectateur, un regard critique. L'idée, c'est de s'approprier cet événement et pas de simplement en être le spectateur passif, mais le spectateur acteur.
Alors, ces personnes qui viennent donc durant le festival, il reste combien de temps finalement ?
C'est variable. Il y a des séjours courts sur 3 journées, il y a des séjours à la semaine, il y a des séjours sur 15 jours. Nous, au sein des CMEA, on propose des formules différentes avec des contenus pédagogiques, avec des contenus d'activités thématiques, là aussi qui répondent parfois à des programmes scolaires, à des programmes d'équipes pédagogiques sur des établissements ou des MJC. Et puis, simplement ensuite, des réponses qu'on accorde à des demandes de personnes comme ça qui viennent en leur nom propre pour découvrir le festival. Donc, sur ces lieux de vie, ce n'est pas uniquement des enfants, mais c'est aussi des adolescents, des adultes qui se retrouvent à partager cet événement avec chacun leur propre manière de vivre ce moment.
On peut dire que la culture est bien subventionnée en France, peut-être avec des coupes budgétaires selon les gouvernements, selon l'époque aussi, les crises et je ne sais quoi. Vous, votre financement, ça vient d'où ?
Il y a un financement, régulier, permanent. Les CMEA font partie d'associations reconnues d'utilité publique. Donc il y a des conventions qui sont passées entre l'État et les différents ministères, donc Jeunesse et Sport, ministère de la Culture, etc. Donc il y a des conventions sur 3 ans, sur 1 an qui sont signées, qui garantissent, on va dire, un certain nombre d'actions. Et puis ensuite, les CMEA, comme je l'expliquais tout à l'heure, font partie des structures qui répondent à des appels d'offres émanant de l'État. Donc régulièrement, l'État propose des actions avec des enveloppes financières à la clé. À chaque structure, à chaque association et maintenant à chaque entreprise privée aussi, concurrentielle avec les associations d'éducation populaire, de fournir un dossier, une proposition d'action avec un budget prévisionnel. Oui, bien sûr, la culture est soutenue. Elle l'est quand même de moins en moins au fil des décennies, il faut quand même le rappeler. L'État, quand même, petit à petit, se désengage de sa mission de service public pour laisser place à du mécénat privé, à de la participation de personnes en nom propre ou de structures comme ça qui veulent bien parfois injecter de l'argent, mais sans doute pas avec le même cahier des charges que ce que le faisait l'État avant. Donc il faut quand même aussi signaler que l'action est de plus en plus difficile et que voilà, forcément oui, la culture ça coûte de l'argent, mais l'éducation ça coûte de l'argent, on le sait. Et on sait aussi que c'est pas un investissement à perte, que c'est un investissement nécessaire dans une société.
Alors on va terminer, Boris, avec une anecdote, si possible. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça dans vos ateliers ? Sur les rapports que vous avez avec les enfants ou que eux ils ont avec ce qu'ils rencontrent.
J'ai une anecdote sur Avignon, donc qui date d'il y a 1 an, donc sur une maison d'accueil qui était dans une école maternelle, et donc on avait un séjour qui était mis en place pour une semaine avec un groupe de jeunes venant de la PJJ, donc des jeunes plutôt en parcours difficile, avec des relations difficiles avec la justice.
Donc on rappelle PJJ,
protection judiciaire de la jeunesse. Donc une partie du groupe d'ados venant de ce côté-là, une autre partie venant de jeunes de l'école de la deuxième chance de Nîmes, et une troisième partie d'ados inscrits par leurs parents, voilà, sur un séjour, comme un camp d'ados, comme n'importe quelle activité. Et puis la surprise de voir en une journée, en 2 jours, des jeunes se rencontrer, et puis fraterniser, sympathiser, faire de la musique ensemble, aller au spectacle ensemble, traverser la nuit ensemble en étant allongés dans la cour de l'école à regarder les étoiles et à discuter jusqu'à l'aurore. Et puis des jeunes qui se quittent au bout d'une semaine en se prenant dans les bras et avec les larmes aux yeux alors qu'ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et être comme ça complètement pris dans un moment d'affectif et puis de découverte de l'ambiance d'un festival, quoi.
Le mot de la fin sera pour Cécile Laurent, la coordinatrice du séminaire Art de rue, Art social.
L'idée, c'est de développer un réseau, une plateforme qu'on a envie d'animer par la suite autour de cette question d'art social, justement, art de la rue, plateforme internationale. Et puis tous les échanges de pratiques qui ont eu lieu pendant la semaine, les actes des tables rondes, tous les échanges de réflexion aussi seront considérés signé dans un site web, traduit en autant de langues qu'on pourra le traduire, avec l'idée d'être une base de données où chacun peut venir puiser à la fois des outils, des idées, des contacts, voilà, permettre un petit peu à la question d'avancer. Donc sans doute en animant un peu le réseau de newsletters, etc. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas de créer un réseau en plus de réseaux déjà existants, mais peut-être de s'associer avec des réseaux comme Art Factory, qui est venu témoigner, comme le réseau de recherche action du Bazin, ou d'autres encore, voilà, qui, avec lesquels on s'est rencontrés dans la préparation de ce séminaire et dans sa réalisation. Mais voilà, l'objectif, c'est effectivement d'avoir un espèce d'amalgame de tout ce qui a été dit, et puis d'essayer de le continuer à le faire vivre.
Alors pour le coup, si on veut être concret, pratique, si je vais sur ce site internet et que je cherche des idées, qu'est-ce que je vais trouver concrètement ?
Alors ça peut être plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on peut y aller avec une envie vraiment technique, d'outils artistiques mis en place pour un certain public, donc des fiches techniques pédagogiques par exemple, des vidéos, également des méthodes d'intervention dans des milieux. Alors par exemple la compagnie Cine qui est venue témoigner de comment on peut entrer dans un quartier populaire et assez cloisonné, et comment on peut amener du théâtre de répertoire au petit bar, là en l'occurrence sur le quartier de Montpellier. Donc voilà, des méthodes de travail véritablement décrites. Comment on monte un projet de coopération artistique internationale. Alors bon, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même des outils méthodologiques qui seront proposés, des réflexions aussi sur ces questions-là, sur l'art social plus théorique. Donc là, c'est le travail notamment de demain, là, de passage à l'écrit. Il y a l'idée d'une charte aussi qui a été évoquée. Donc peut-être que ce ne sera pas à la fin de la semaine, mais un peu plus tard, et qu'on y réfléchira à distance. Voilà, donc ça peut être des outils vidéo. Les intervenants aussi ont tous été filmés. Leur communication sera retranscrite. Donc avec des témoignages qui posent des enjeux, des problématiques autour des arts de la rue, autour de l'art social, des panoramas d'expérience. Voilà. Donc et puis on peut aller aussi chercher des partenaires pour parce qu'on a envie de monter un projet qui est déjà un peu identifié et qu'on cherche des gens de terrain. Donc c'est aussi un répertoire d'acteurs qui sera en ligne.
C'était un reportage sur le séminaire euro-méditerranéen art de rue, art social qui s'est déroulé en juin dans le village de Capestan, dans l'Hérault, et organisé grâce à des financements européens par la compagnie Serpart, que vous retrouvez sur internet www.serpart.com.